Monsieur, depuis combien de temps habitez-vous Orléans?
Ça fait 9 ans, depuis 1960.
Vous vous plaisez à Orléans?
Oui et non.
Pourquoi ça?
Parce que j'ai toujours. Je suis lorrain, alors je suis né en Lorraine et puis j'ai toujours été en Lorraine. Et je préfère la Lorraine à l'Orléanais.
Et est-ce que vous comptez rester à Orléans?
Bon, je suis obligé par ma profession.
Et qu'est-ce que vous faites comme travail?
Je suis contrôleur divisionnaire au PTT.
Et en quoi ça consiste, ce travail?
Ben, c'est du travail de. C'est difficile à définir, c'est du travail de contrôle dans certaines branches du service postal, quoi. Il y a un peu de tout, c'est difficile à définir ça.
Mais est-ce que vous voulez bien me décrire une journée de travail?
À une journée de travail, oui. Alors, le matin, je commence à 5 heures. Et de 5 heures à. Vous voulez les détails
Si, si,
de
vous,
tous les
vous pouvez,
détails?
oui.
Alors, de 5 heures à 8 heures, je fais du contrôle d'affranchissement dans l'arrivée du courrier, pour le courrier qui est insuffisamment affranchi, qui est à taxer. Je prépare tout ça pour la distribution des préposés. Je mets les surtaxes et puis je les distribue à chaque préposé qui doit encaisser la surtaxe, au montant de la surtaxe chez l'usager. Ensuite, je passe à un autre genre d'opération. Ça fait beaucoup de détails aussi, ça. Alors, j'ai des tas de choses, quoi. Contrôle de machines à franchir, installation de machines à franchir, distributeur automatique de timbre-poste, je m'en occupe aussi. Des statistiques, du contrôle, toujours du contrôle d'ordre de réexpédition. Pour le matin, c'est à peu près tout ce qu'il y a, quoi. Alors l'après-midi, c'est autre chose. Le lendemain, on commence à midi. De midi à 7h30 le soir, 19h30. Alors, c'est pareil, toujours contrôle d'affranchissement pour la deuxième distribution, jusqu'à 15h environ. Et même opération que le matin. Et puis, dans la soirée, enfin, entre-temps, il y a toujours ces machines à franchir installées, ou distributeurs en panne, ou quelque chose comme ça, quoi. Et sur la fin de la soirée, le contrôle des signatures des mandats payés à domicile par les préposés. Pour tout ce qui est tous les mandats qui ont été payés à Orléans à domicile. Alors, contrôle des signatures, enfin, contrôle, quoi.
Alors, c'est une journée assez longue.
Ah bien, on fait 7h30 de file, quoi. Alors, on commence le matin à 5 heures jusqu'à midi et demi, et on recommence le lendemain de midi à 19h30. Et puis, ainsi de suite, le surlendemain, 5 heures midi, ainsi de suite.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail? Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous
Ah ben vous
déplaît?
savez, ça fait 32 ans que je suis postier, moi. J'ai toujours été au PTT, alors il y a 32 ans d'ailleurs, je suis rentré au PTT en 1937.
Et si vous n'étiez pas postier,
Ah bien, ça.
qu'est-ce que vous aimeriez faire?
Oh, moi je bricole beaucoup, hein. La preuve, c'est que je viens de refaire l'appartement. Comme vous êtes venu, j'étais en pleine peinture. Maintenant, c'est terminé. Vous voyez, quand même, il a fait de retarder.
On trouve que de plus en plus de femmes mariées travaillent aujourd'hui.
Oui.
Et vous personnellement, est-ce que vous êtes pour ou contre?
Non, je préférerais que Avoir un traitement suffisant pour que la femme ne travaille pas, évidemment, ça c'est le but général, c'est le but de tout le monde, ça. D'un autre côté, une occupation aussi, c'est pas mauvais non plus. Mais enfin, pas être obligé de faire des journées, disons un travail à mi-temps, par exemple, pour la femme, ça ce serait pas mal. Mais être obligé de faire des journées complètes, c'est mon point de vue.
C'est ce que je cherche maintenant. Et qu'est-ce que vous faites de votre temps libre?
Ah, bon, j'ai toujours de quoi m'occuper. Je bricole pas mal. Je donne un coup de main, droite à gauche, quoi. Et puis, enfin, maintenant, moins, parce que commence à avoir un certain âge. Alors quand je commence à 5 heures du matin, vous savez, je vais faire ma petite sieste l'après-midi.
Et le samedi et le dimanche?
Ah ouais, samedi et le dimanche, principalement la pêche.
Et comment vous l'avez-vous passé le dimanche dernier?
À la pêche, justement.
Et que ferez-vous pendant les vacances d'été?
Alors, ça dépend des années. Cette année, je n'ai encore rien de prévu pour cette année. Enfin, habituellement, les autres années, on retient un hôtel au bord de la mer, quoi. Enfin, cette année, je sais pas, j'ai l'impression que on va plutôt faire un voyage, on va plutôt faire des vacances itinérantes.
Pour faire la pêche
Oui, il y a toujours le matériel dans la voiture.
Bon. Et si vous avez 2 heures de temps libre supplémentaire par jour, que feriez-vous de ce temps libre?
Bon, je ne me suis jamais posé la question parce que, vous savez, pour avoir 2 heures de plus, bon, il y a toujours moyen de s'occuper.
Alors, je vais vous poser quelques questions au sujet de l'enseignement, des lycées, des écoles. À votre avis, monsieur, qu'est-ce qu'on devrait apprendre surtout aux enfants à l'école?
Ce qu'on devrait apprendre surtout aux enfants à l'école. Moi, je vois l'enseignement tel qu'on l'a eu nous-mêmes, l'enseignement primaire était très bien. Enfin, moi, je suis en primaire, évidemment, j'étais pour le lycée, j'ai continué à l'école primaire supérieure. Mais ce qui serait intéressant, c'est que justement, les enfants puissent apprendre de très bonne heure, très jeune, une ou deux langues étrangères, une au moins.
Pourquoi?
Eh bien, c'est très utile dans la vie. Je m'en suis rendu compte puisque j'ai fait la guerre dans les forces françaises libres et j'ai eu l'occasion justement de côtoyer les Américains, les Anglais. Et heureusement, j'avais appris l'allemand à l'école primaire supérieure et je me suis pas mal débrouillé en Allemagne lorsque, évidemment, nous les avons reconduits.
Et qu'est-ce que vous pensez du latin à l'école?
Alors ça, c'était un peu puissant pour moi, ça. Le latin, évidemment, ça serait pas mal parce que c'est quand même la base de. Même la base de la langue française, quoi, c'est vrai.
Et dans quelle matière est-il bon qu'un enfant soit fort?
Ben, maintenant, moi, à mon avis, je pense que ce serait pour l'avenir, je pense, pour les enfants maintenant, ce serait plutôt les mathématiques qui se dirigent vers la science. C'est là quand même le meilleur débouché. À mon avis. Avant, évidemment, c'est plus du tout la même vie. Hein. Toutes les matières étaient bonnes. Français, géographie, langue étrangère, tout ça était bon. Mais maintenant, pour l'avenir, quand même, pour les enfants, je crois que les mathématiques, la science, c'est quand même des débouchés plus sérieux.
Et qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent ou ne réussissent pas à l'école?
Oh, ça. Vous savez, j'ai deux enfants, hein. J'en ai un qui n'a pas voulu continuer, puis l'autre qui continue. C'est difficile à définir, ça. Et puis il y a une question, il faut qu'ils soient doués ou pas.
Et jusqu'à quel âge est-ce qu'il faudrait que les enfants continuent leurs études?
Ben, je crois que le plus longtemps possible.
Est-ce que la même chose pour les garçons et les filles?
Oui, il n'y a pas de raison.
Et pourquoi est-ce que vous dites le plus longtemps possible?
Ben, plus longtemps possible pour essayer d'obtenir la meilleure situation possible, bien entendu.
Et pour revenir à la ville d'Orléans, est-ce que, d'après vous, on fait assez pour les habitants à Orléans?
Ben, en quel sens?
Donc, c'est-à-dire, on dit on, est-ce qu'on fait assez pour les habitants? Peut-être la municipalité ou les autorités, n'importe qui.
Oh, vous savez, il n'y a pas à se plaindre, hein, je sais pas. Il y a bien des détails, comme on a un trottoir qui est démoli, qui est parfait, ou des bricoles comme ça. Vous savez, ça se passe partout, ça, dans toutes les villes, hein.
Alors, j'ai une question que je veux vous poser. C'est de parler des événements de mai dernier.
Oui.
Moi, je n'étais pas en France à l'époque. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé?
Ce qui s'est passé en mai, c'est en mai, c'est une grève générale, ouais. Mécontentement général des ouvriers. Ça a commencé évidemment par les manifestations d'étudiants, et puis il y a eu le mécontentement. Les salaires, surtout pour les petits salaires. Et puis, d'ailleurs, le gouvernement a immédiatement accordé une augmentation substantielle, qu'il aurait d'ailleurs très bien dû faire les années précédentes. Grève générale, jusqu'à temps qu'on obtienne satisfaction.
Est-ce que les différences entre les classes sociales sont très marquées à Orléans?
Bon, vous savez, chez nous, les fonctionnaires, on peut pas. Bon, les classes sociales, vous avez parlé de la population, mais la population en général, quoi. Oui, vous avez, il y a quand même pas mal de gros propriétaires. Enfin, vous savez, c'est partout, ça. C'est le régime français, ça.
Et à quoi est-ce qu'on reconnaît, par exemple, un gros propriétaire?
Ah ben, ici, il se reconnaît difficilement.
Mais c'est
pas,
pas
celui qui est bien habillé en général.
Mais par quoi alors?
Ah bah par les discussions, par le quand on connaît les gens, quoi. Autrement.
Et est-ce qu'on peut passer d'une classe à l'autre?
Celui qui peut faire beaucoup d'économies, qui arrive à en faire, évidemment, il arrive à monter un petit peu. En général, c'est du patrimoine familial.
Et est-ce que les différences entre les classes ont tendance à diminuer ou à augmenter?
Vous savez, je vois pas. Ce serait plutôt tendance à diminuer quand même. Diminuer.
Diminuer, pourquoi?
Bien, justement par le fait de des études que les jeunes peuvent faire, même n'étant pas fortunés, voyez-vous. Les bourses accordées, tout ça, permettent de poursuivre des études. Ça diminue quand même, ça. Seulement, on n'enlèvera pas le patrimoine familial qui est passé de père en fils, ça, il n'y a pas de doute.
Et vos enfants, monsieur, qu'est-ce qu'ils font?
Eh bien, j'ai un fils qui est employé de banque. Celui qui n'a pas voulu continuer après son brevet. Et puis ma fille passe son bac cette année.
Et est-ce que vous aimeriez que votre fils fasse autre chose?
Celui qui a voulu s'arrêter, ça lui plaît de travailler dans une banque et il continue d'ailleurs à étudier pour obtenir son brevet professionnel. Il a déjà eu son certificat d'aptitude professionnelle. Maintenant, il travaille pour son brevet professionnel. Il a décidé de faire sa carrière là, ma foi.
Vous m'avez raconté une journée de votre travail, mais avec qui parlez-vous au cours de votre travail?
Ah, là, je parle avec beaucoup de monde. Ça, c'est difficile à vous expliquer.
Et de quoi est-ce que vous parlez en général?
Dans les conversations autres que le service, par exemple. Bon, on parle un petit peu de tout, de famille, de pêche, de chasse. Enfin, je ne suis pas chasseur, mais enfin, il y a beaucoup de chasseurs dans le pays, alors je suis obligé d'écouter leurs histoires de chasse. Et puis, enfin, de toutes sortes de choses, de bricolage, de papier peint, de peinture, de ce qu'on fait, quoi.
Et êtes-vous satisfait de vos conditions de travail?
Ça pourrait être meilleur. Ça pourrait être meilleur, mais enfin, il faut tellement à se plaindre.
Et qu'est-ce que vous aimeriez voir changer?
Les horaires de travail. Parce que ça fait 32 ans que je me lève à 4h du matin.
Et pour madame aussi.
Seulement, c'est difficile. Seulement, ça, c'est difficile, surtout dans le métier de postier.
Est-ce que vous avez déjà fait grève?
Ah oui.
Quand?
À chaque fois.
Et comment ça a commencé?
Quand j'ai commencé à faire grève? Ah, ça remonte à très loin, ça.
D'accord. Mais est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé quand vous avez fait grève?
Ah, ben, nous avions une réunion syndicale tous les matins pour avoir les nouvelles de ce qui se passait, évidemment, dans les discussions avec le gouvernement.
Et vous avez obtenu satisfaction?
Oui, quand même, cette fois-là. Pas entièrement, mais il y a toujours des promesses en suspens. Enfin, on a quand même eu un résultat.
Quel est votre syndicat?
Force ouvrière.
Est-ce que vous êtes actif dans votre syndicat?
Oui, maintenant, oui.
Pourquoi?
Parce que j'ai été élu par les camarades.
Et après 32 ans, comment ça se passe? Vous étiez élu par vos camarades. Qu'est-ce qu'ils désirent de vous?
Ah ben, comme représentant du personnel, quoi. Non, quand il y a des discussions à avoir dans les commissions, par exemple.
Et qu'est-ce qu'il faut faire comme représentant?
bien lorsqu'il y a, ça dépend, lorsqu'il y a une commission d'avancement, par exemple, s'il y a un cas flagrant ou un collègue, par exemple, est injustement mal noté, alors à ce moment-là, on intervient en sa faveur. C'est une sorte de. C'est pour un tribunal, si vous voulez, mais enfin, c'est la défense, quoi, en somme.
Vous avez beaucoup de cas comme ça?
Non, en général, il y a très peu de réclamations. En général, il n'y a pas.
Alors, je vais changer les questions maintenant. Un étranger veut venir en France pour apprendre le français. Dans quelle région est-ce qu'il doit aller, d'après vous?
Mais ça dépend qui est l'étranger aussi.
Un anglais, disons.
Un anglais. Ben, vous savez, bon, ici c'est pas mal. Ici c'est pas mal.
Est-ce qu'il y a des endroits qu'il devrait éviter?
Des endroits en France qu'il devrait
Oui, en
éviter.
France, oui, s'il veut apprendre le français.
Oh, mais en principe, les endroits où il y a un dialecte qui est très difficile à assimiler.
Lesquels, par exemple?
Oh, ben, la Bretagne, par exemple, l'Alsace. L'Alsace, la Catalogne aussi. Catalogne. Partout où il y a un patois, quoi.
Un patois, oui. Et pour bien apprendre le français, quels gens devrait-il fréquenter?
Quel?
Jean.
Moi, je crois que la classe moyenne, quoi.
Pourquoi?
Parce que vous avez, en principe, on apprend, quand vous apprenez le français, c'est littéraire. Si vous voulez parfaire si vous voulez parfaire la langue, il vaut mieux fréquenter des gens de classe moyenne, quoi. Vous apprenez en plus de ce qu'on apprend à l'école, quoi, enfin disons à l'université, ce qu'on apprend en plus le dialogue courant, quoi.
Et est-ce qu'il y a des gens qu'il devrait éviter de fréquenter?
C'est comme partout.
Quelles sont, d'après vous, monsieur, les difficultés de la langue française pour un étranger?
C'est le problème en sens inverse. À mon avis, ce sont les verbes irréguliers.
Pourquoi?
Non, parce qu'il y a tellement de formes différentes. À mon avis, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça.
Et est-ce qu'on parle bien à Orléans?
En principe, on parle pas mal français, oui, mais. Comme partout, ils ont des expressions typiquement orléanaises.
Lesquels, par exemple?
C'est quoi donc ça? C'est quoi donc ça? Qu'est-ce qu'il y en a bien des autres, enfin, ça me vient pas à l'idée.
Ah, dis donc, dis donc.
Dis donc, enfin, ça
c'est.
Oui, il y a pas mal d'expressions comme ça qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, puis maintenant c'est familier maintenant.
On les accepte.
Oh, et puis on les pratique même.
Et est-ce qu'à votre avis, le français est une langue difficile?
J'ai toujours entendu dire que c'était une des langues les plus difficiles pour les étrangers pour apprendre le français. J'ai toujours entendu dire ça, mais enfin, c'est difficile, je peux difficilement vous répondre.
Alors, quelqu'un est de passage à Orléans. Il vous demande ce qu'il pourrait faire pendant son séjour. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire?
Eh bien, je l'enverrai au syndicat d'initiative. N'y a pas de doute, parce qu'il existe un syndicat d'initiative, on peut très bien le renseigner, là. Alors, maintenant, ça dépend qui est, si c'est un vacancier, si c'est un étudiant. C'est un étudiant, on l'envoie à l'université, hein, au bureau universitaire.
Mais s'il est de passage à un temps où le syndicat d'initiative est fermé, il vous demande ce qu'il peut faire à Orléans.
Ça dépend de ce qu'il veut faire aussi. Hein. Ça, on peut toujours poser la question, demander, à condition qu'il parle, qu'on parle, qu'on puisse s'entendre, hein, qu'on puisse se comprendre. Ça dépend de ce qu'il veut faire. S'il veut aller se promener, s'il veut aller au spectacle, on peut toujours renseigner. Alors, pour les questions de promenade, c'est facile ça. C'est pour ça qu'il manque dans la région.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la région, ou surtout à Orléans, que vous pouvez recommander?
Oui, ça dépend des goûts des personnes aussi, hein. Vous avez des personnes qui aiment les paysages, d'autres qui aiment les musées, d'autres qui aiment visiter les monuments. Alors, à ce moment-là, on peut toujours indiquer un itinéraire. Ça dépend de ce que la personne veut voir. Si on arrive à se comprendre. Un Anglais qui parle le français, qui me demanderait par exemple, il est là pour quelques jours à Orléans, et il me dirait quand même bien ce qu'il préfère voir. À ce moment-là, je peux lui expliquer, je peux toujours lui dire. Quand même, depuis 9 ans que je suis là, je commence à connaître la ville.
C'est ça. Alors, quelqu'un frappe à la porte de cette pièce. Qu'est-ce que vous lui dites?
Quelqu'un, n'importe qui.
N'importe qui.
Alors, j'ouvre la porte et puis je lui demande, vous désirez monsieur ou vous désirez madame?
Et vous invitez quelqu'un à prendre quelque chose à la maison. Qu'est-ce que vous lui dites pour l'inviter?
J'ai pas tellement bien compris votre question là.
Si vous désirez inviter quelqu'un
Oui.
à prendre quelque chose à la maison, chez vous, qu'est-ce que vous lui dites pour l'inviter de venir chez vous?
Ça dépend qui, si c'est, ça dépend quelle personne évidemment. Mais venez donc prendre l'apéritif, ou venez donc nous dire bonjour, ou venez
C'est ça dépend.
passer nous voir, ou vous voyez.
Passez me voir.
Oui, passez donc à la maison, quoi. Ça, venez donc faire un tour à la maison. Il y a beaucoup de.
Il y a beaucoup de
Beaucoup de. Oui.
Alors, je sais
Vous montez jusque chez moi, ou. Oui, il y a des tas de choses.
Alors, ça dépend encore de la personne.
Oui, aussi, évidemment. Si c'est un ami, elle dit, passe donc à la maison, quoi. Si c'est quelqu'un, venez donc prendre le café, venez nous voir.
Alors, cette question peut-être va vous faire rire, monsieur, mais je la pose quand même. Comment est-ce qu'on fait une omelette chez vous?
Elle allait en faire
Ah, c'est
une.
pourquoi je vous pose la question.
Elle allait en faire une. Justement, c'est ce qu'on va manger ce soir.
Ah, bon, alors, allez-y.
Alors, moi, je ne suis pas très fort en cuisine.
Non.
Mais enfin, je sais quand même faire une omelette.
On l'a préparée de plusieurs façons.
Oui, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons.
Mais, monsieur, essayez de m'expliquer, s'il vous plaît, comment on fait une omelette ici. Parce que vous l'avez regardé, madame, plusieurs fois sans doute.
Ah non, puis je m'en suis fait moi-même aussi.
Hein. Ah bon? Alors, vous voyez.
Ah mais c'est pas compliqué, hein. Pour moi, c'est pas compliqué. On casse les œufs, on bat tout ensemble, on met un peu d'eau, je crois. On mélange un peu d'eau, enfin, on assaisonne, c'est le poivre. En Lorraine, on découpe des petits morceaux de lard qu'on fait frire avant. Et puis on verse tout ça dans la poêle, et puis on tourne jusqu'à temps que ça soit à peu près cuit, quoi.
Mm-hmm. On sent déjà l'odeur de votre omelette.
Oui, seulement ici on ne la fait pas au lard parce qu'on ne trouve pas de charcuterie comme en Lorraine.
Non,
la charcuterie ici c'est pas très fort. Là-bas, on a du lard fumé, des saucisses fumées, vous savez, ça, c'est pas du tout fait pareil ici. On met des épices aussi dedans, on a quelquefois de l'ail, de l'oignon aussi.
Ça dépend.
On l'a fait de plusieurs façons.
Bon. Alors, monsieur, maintenant, je vais vous poser des questions. Et je vais essayer d'écrire des notes, mais oubliez que vous voyez que j'écris.
Mais oui.
Now I'm asking Bernard's questionnaire. Alors, monsieur, est-ce qu'il y a eu un dictionnaire chez vous?
J'ai un dictionnaire français, oui.
Lequel?
Larousse.
En combien de volumes?
Oh, un seul.
C'est le petit Larousse?
Le petit Larousse.
Où gardez-vous ce dictionnaire?
Dans le secrétaire, dans une armoire secrétaire, avec les autres livres d'ailleurs de lecture.
Et vous l'avez depuis quand?
Bon, ben, j'en ai toujours eu un à Nancy, comme j'étais à Nancy, j'en avais un, mais je l'ai laissé là-bas, j'en ai acheté un autre, arrivé ici, j'en ai toujours eu un.
Et vous l'avez acheté toujours?
Celui-là, oui, mais enfin l'autre venait de mon père.
Ah, c'est que c'est comme héritage.
Oui, en deux volumes, alors deux gros volumes.
Ah.
Je les ai laissés aux enfants d'ailleurs.
Et qui en s'en sert le plus souvent?
Bon, ça dépend ce qu'on fait. Autant l'un que l'autre, vous savez.
Et est-ce que vous pouvez dire combien de fois, disons, par semaine ou par mois, vous en servez?
Deux ou trois fois par mois, pas plus.
Et quand l'avez-vous regardé pour la dernière fois?
La dernière fois, c'est pas vieux, tiens, c'est la semaine dernière.
Et pourquoi?
C'était pour retrouver un mot, avoir la définition d'un mot que j'avais entendu et que je ne connaissais pas.
Et quel genre de choses y cherchez-vous le plus souvent? L'orthographe ou le sens quoi?
L'orthographe assez rarement parce que je suis assez fort en orthographe. si, ça m'arrive quand même. Enfin, c'est plutôt le sens.
Le sens.
Plutôt le sens, oui.
Et possédez-vous un livre sur l'art de parler ou l'art d'écrire ou les difficultés de la langue française?
Non.
Guide de politesse ou de savoir-faire?
Non plus.
Le journal que vous lisez habituellement contient-il une rubrique sur le langage?
je pense pas. Non, 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 c'est le quotidien lorrain, d'ailleurs, je reçois, je suis abonné.
Et faites-vous des mots croisés?
Ah non.
Pourquoi?
Ben, ça ne m'a jamais passionné. Mon père aimait ça, lui, il en faisait toute la journée, mais...
Et que pensez-vous du franglais?
Les mots anglais introduits dans la langue française. Bon, vous savez, on a tellement l'habitude maintenant que on n'y fait pas attention. Hein.
Alors, vous êtes pour ou contre?
Oh, vous savez, moi, je suis pas contre.
Et vous acceptez ces mots comme...
Oui, moi, par exemple, dans un match de football, y a bien des mots anglais, on a l'habitude, on sait ce que c'est, quoi, le goal, toutes des choses comme ça.
Et les autres mots, à part des sports?
À part les sports? Ben, y a certains mots, on se demande ce que c'est, quoi, mais on finit par s'y habituer, quoi.
Y a-t-il des différences, selon vous, dans la façon de parler français entre les gens appartenant à des milieux sociaux différents?
Oui, maintenant.
Ces différences sont-elles très importantes ou très grandes ou grandes?
Non, non. Mais on reconnaît quand même quelqu'un qui a une certaine culture.
Comment ça?
On parle... par le vocabulaire qui est beaucoup plus complet, hein, c'est normal.
C'est pas le vocabulaire.
Il possède beaucoup plus de mots, quoi.
Et selon vous, les gens parlent-ils de mieux en mieux ou de plus en plus mal?
Je vois pas la différence, vous savez.
Sans changement. Et parmi vos connaissances, quelle est la personne qui parle le mieux le français? C'est-à-dire quelle profession, par exemple?
On en revient à l'histoire de... des gens cultivés ou pas, hein. Notre receveur principal, par exemple, parle très bien, et puis ainsi de suite. Tout ça, ça dépend de l'instruction qu'on a eue.
Et vous...
C'est difficile à définir, ça.
Y a-t-il en France un organisme officiel qui décide si un mot ou une expression fait partie ou non du bon français?
Ah, ben c'est l'Académie, oui.
Et est-ce que vous croyez que c'est utile?
Ben, il faut quand même bien quelqu'un qui officialise, en somme, un mot et qui accepte un mot ou il l'accepte pas, quoi. Il faut bien fabriquer le dictionnaire. Il faut quand même quelqu'un, quoi.
Seriez-vous favorable à un contrôle des journalistes ou des speakers de la télévision, de la radio, des professeurs même, c'est-à-dire de leur façon de parler français?
Oui, parce que j'estime que ces gens-là, normalement, devraient parler un français pur, quoi. Quand même, surtout dans l'information.
Et comment devrait-on exercer ce contrôle?
Moi, je vois pas. Si, évidemment, Et on a des tests, par des tests, quoi, devant des groupes de professeurs de français, quoi.
Et aujourd'hui, à votre avis, l'orthographe et la correction de la langue sont-ils enseignés aussi bien, mieux ou moins bien que du temps où vous étiez vous-même à l'école?
Moins bien, nettement.
C'est-à-dire l'orthographe et la correction de
la langue? La correction, l'orthographe et la correction de l'orthographe.
La correction de...
Du français, de la langue, de le français, quoi, enfin. Bon, au point de vue correction, non, c'est toujours pareil, hein, ça, mais je trouve que dans l'enseignement, on y attache moins d'importance qu'avant. C'est mon avis.
Et comment expliquez-vous ça?
Oh, ben ça, je ne sais pas. C'est les programmes pédagogiques qui ont changé, certainement.
Les programmes ont changé. Et dans quelle matière étiez-vous le plus fort à l'école?
En mathématiques, en dessin et en allemand. Parce que dans l'Est, on apprend surtout l'allemand comme deuxième langue.
Habituellement, avez-vous quelque chose pour écrire sur vous?
Ah oui, toujours.
Quoi?
Ah ouais, j'ai crayon noir, crayon rouge, puisque je fais du contrôle, crayon ordinaire, et j'ai toujours ça dans ma veste en permanence, quoi.
Possédez-vous un stylo à encre?
Oui, mais je m'en sers presque plus maintenant.
Et à la suite de quelles circonstances avez-vous possédé pour la première fois un stylo à encre? À quel âge?
À l'école primaire supérieure. Alors, j'avais 15 ans.
15 ans. Et quand avez-vous écrit pour la dernière fois?
Avec un stylo...
Non, avec n'importe quoi.
N'importe quoi?
Avec votre crayon, votre plume, le stylo.
Oh, bah, c'est pour vieux, hein. C'est quand j'ai fini mon travail là, à midi. À midi.
À midi.
Aujourd'hui, à midi.
À votre travail.
Oui.
Et c'est pour faire quoi?
La comptabilité, du. Écrire une lettre à un client aussi, avant de partir.
Et vous avez besoin d'écrire beaucoup pour votre travail?
Oui, assez, oui.
Vous avez dit la comptabilité.
Oui, parce que je fais toutes sortes de choses. J'ai de la comptabilité, j'ai du contrôle à faire, j'ai de la correspondance à faire avec les usagers, avec les clients, et quelquefois des rapports aussi, alors, il y a toutes sortes de choses, quoi.
Et si vous deviez dire quelque chose à une personne habitant à 5 km de chez vous, préféreriez-vous vous déplacer ou lui écrire une lettre?
Pour mon travail ou...
Non. Pour,
moi. Oh, pour mon travail, j'écris. On écrit pour le travail.
Travail et...
Mais si c'est quelqu'un qu'on veut voir, on va plutôt le voir. 5 km, c'est rien du tout. Avec la voiture, il y en a pour quelques minutes.
Et si cette personne vous est supérieure, est-ce que vous vous déplacez ou vous écrivez?
Mais supérieur, comment ça, dans le travail
ou dans le travail.
Bon, on se déplace. Ouais.
Est-il important, selon vous, d'avoir une belle écriture?
Oui, pour moi, c'est très important.
Pourquoi?
Eh bien, parce que c'est déjà très facile de... c'est très facile de... peut se relire, puis c'est très facile pour les autres aussi quand ils vous lisent aussi.
Et est-il important selon vous d'avoir de l'orthographe?
Ah oui.
Vous dites que c'est très important?
Ah, c'est très important. Oui.
Et pourquoi?
Quand vous lisez quelque chose où il y a une faute d'orthographe dedans, on dit quand même, vous savez qu'il était à l'école.
Seriez-vous favorable à une réforme de l'orthographe?
Une réforme de l'orthographe? Bon, du moment que tout le monde en est informé, je ne vois pas. Si c'est en bien, ma foi, je ne suis pas contre.
Alors, maintenant, je vais vous poser des questions, peut-être un peu plus personnelles, mais qui de vous, c'est-à-dire vous ou votre femme, écrit habituellement à des amis communs?
C'est presque toujours moi.
Et à la famille, à votre famille?
Oh ben moi, je fais tout le courrier presque. Elle me fait très peu de lettres. Mm. Et si j'ai pas le temps, par exemple, elle va en faire une comme ça. Mm.
Et qui remplit les papiers administratifs?
Ah, ça, c'est moi, ça.
Tous les papiers, les feuilles d'impôt?
Tout.
Et pourquoi est-ce que vous faites tous les...
Ah ben, parce qu'elle veut pas le faire.
Et qui de vous possède le meilleur orthographe? La meilleure orthographe?
Oh, ben elle est bonne en orthographe. Elle ne fait pas trop.
Oui, mais après, des fautes d'inattention, surtout.
Oui.
Mes idées vont toujours plus vite que... La main va toujours plus vite que les idées.
De toute façon, quand il écrit, je la corrige, alors.
Oh, j'en fais quelques-unes, ça ne pas
Et... Qui parle dans le meilleur français?
Bon. Ça se voit, hein.
Et qui écrit dans le meilleur français?
C'est sûrement moi, oui, j'ai l'occasion de...
Et combien de lettres écrivez-vous en moyenne par mois dans votre travail?
Dans mon travail? Bon, ça dépend. En moyenne, par mois, peut-être une dizaine. Ouais.
Et hors de votre travail?
Deux ou trois par mois. À peu près.
Conservez-vous les lettres qu'on vous envoie?
Ah oui.
Toujours?
Ah, ça dépend de qui.
Et lesquelles?
En principe, si c'est une affaire à régler, une fois que l'affaire est réglée, il faut que je détruis le courrier, c'est fini, on n'en parle plus. Mais la correspondance familiale, on la conserve.
Et combien en possédez-vous environ?
Deux lettres?
Oui.
Il y en a plein de boîtes, là. C'est bon, peut-être bien 200 quand même.
Oui.
Oh, c'est facile.
Quand vous écrivez à vos amis, faites-vous un brouillon?
Non, jamais.
Et faites-vous attention aux fautes d'orthographe?
Je n'ai pas compris la question.
Quand vous écrivez à vos amis, est-ce que vous faites toujours attention aux fautes d'orthographe?
Ben, je relis toujours.
Vous relisez toujours?
Oui, enfin, j'en trouve presque jamais, parce que je suis assez fort en orthographe.
Et vous m'avez dit que d'habitude vous écrivez avec un crayon, n'est-ce pas?
Un crayon bic, oui.
Crayon. Et le stylo encre, vous n'aimez pas.
Bon, c'est-à-dire que ça dépend pourquoi là. Mais j'ai abandonné complètement le stylo. D'ailleurs, je m'en sers plus. J'en ai même plusieurs, là, je m'en sers pas. On a l'habitude du crayon bic maintenant. Il y a des pointes très fines qui font une très belle écriture.
Et stylo
Stylo bic, oui.
Et quel type de papier utilisez-vous?
Le papier ministre, toujours.
C'est quelle couleur?
Non, ben c'est blanc, quadrillé, quoi.
Et que pensez-vous des gens qui se servent du papier à carreaux?
Ben c'est du papier à carreaux, je prends. Enfin, le papier ministre, ben tiens,
Ah bon.
va chercher
Ah
le.
bon.
Je vais vous montrer. Tu vas chercher le bloc là. Je vais vous montrer.
Bon.
Ça va mieux.
Et quand vous écrivez, quand vous deviez écrire un mot d'excuse à l'école de vos enfants, est-ce que vous avez fait un brouillon?
Ben ça m'est jamais arrivé, ça.
D'écrire un mot?
Ah non, jamais.
Ça, c'est quelque chose déjà, n'est-ce pas?
Oui,
Ah,
voilà ce que je prends
c'est
là.
papier à ligne. Ah, à carreau, bon.
Un papier à carreaux, oui.
Et c'est papier ministre, c'est une grande
Oui, c'est
feuille.
la grande feuille, oui, je me suis
C'est la grande feuille.
trompé. C'est pas papier ministre, ça s'appelle format commercial, ça, je
Ah,
crois.
bon.
Et alors, il y a le petit bloc aussi qui fait moitié, vous voyez.
Ah, oui.
Alors, quand j'ai une petite lettre, je prends le petit bloc. Quand j'ai une grande lettre, je prends celui-là. Toujours le même. Mais on n'a pas de
Merci.
papier fantaisie.
Non, merci. Et quand vous devez écrire à votre supérieur dans le travail, est-ce que vous faites un brouillon?
Ah oui, quand même.
Et vous vous servez du même papier?
Ben, c'est-à-dire qu'on a du papier à notre disposition. Non, c'est du papier blanc, hein, à ce moment-là, c'est des feuilles comme ça, quoi.
Y a-t-il des choses qui vous agace dans la façon de parler de votre femme?
Non, pas du tout.
Bon.
Des fois, elle a des petites expressions comme ça. On a envie, quoi.
Oui. Et vous arrive-t-il de la reprendre quand elle parle, quelquefois?
T'en entends, oui. Hein? Des fois,
Quand je parle un peu trop séché.
Non, mais
Ah,
reprendre,
sur
ça
le
veut dire que
langage.
tu t'es trompé de mot, par exemple,
Oui.
ou tu mal orthographié, quoi, ou enfin mal parlé. Oh, ça arrive pas souvent.
Pas souvent. Mais y a-t-il des choses qui agacent votre femme dans la façon dont vous parlez?
Non.
Non.
Et y a-t-il des choses qui vous agacent dans la façon de parler de vos enfants?
Non plus.
Vous arrive-t-il quelquefois de les reprendre?
Oh non, parce que vous savez, ils en savent autant que nous, hein.
Y a-t-il des mots que vous interdisiez de prononcer à vos enfants?
Je vois pas, non. Non.
Et vos parents, se faisaient-ils attention à la façon dont vous parliez?
Ah oui.
Et qui vous reprenait le plus souvent?
Ah, le père, toujours.
Et pour quel genre de choses surtout?
La tendance au mot vulgaire, par exemple.
Et prenait-il des sanctions?
Oh oui. Enfin, ça dépend, non. Ah oh, non, non. Les sanctions, non, quand même pas. Non, j'étais très sévèrement montré, quoi, puis c'est tout, quoi.
Bon, merci, monsieur.